starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. And on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 12 février. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque jeudi, le point sur l'économie. Et d'abord les titres du journal de ce jeudi. En Australie, le député libéral Angus Taylor a officiellement lancé sa candidature à la direction du Parti libéral, mettant fin à des mois de spéculation concernant le poste de Susan Lee. Au moins 30 personnes ont péri dans le cyclone Gezani à Madagascar qui lutte contre les conséquences dévastatrices de la tempête. Gezani a balayé la côte est avec des vents d'environ 185 km par heure et les rafales atteignant près de 270 km. Par heure. Et on passe au journal de ce jeudi en Australie. Donc, le député libéral Angus Taylor a lancé officiellement sa candidature à la direction du Parti libéral, mettant fin à des mois de spéculation. Dans un coup dur porté à la direction actuelle, plusieurs membres du cabinet fantôme ont démissionné en soutien à Angus Taylor, notamment Claire Chandler, Matt O'Sullivan, Philip Thompson, James Patterson et Junior Dunham. Alors qu'un vote pour la direction du parti est prévu prochainement, dans les heures qui viennent, Angus Taylor a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour présenter sa vision d'une alternative au gouvernement travailliste.
The Labor government has failed and the Liberal Party has lost its way. I'm running to be the leader of the Liberal Party because I believe that Australia is worth fighting for. I believe we need strong and decisive leadership that gives Australians clarity, courage and confidence in providing a vision for the future. We must start by holding this failing Labor government to account for their total mismanagement of our country and advocate for solutions to the problems that Australians are facing.
Madame Lee a publié une photo d'elle souriante sur les réseaux sociaux avec une déclaration promettant de soulager les familles de la pression de redresser le budget et de maintenir la sécurité de l'Australie. Et suite à la démission d'Angus Taylor du cabinet fantôme, ses principaux collègues s'activent déjà pour constituer son équipe gagnante. La sénatrice libérale Sarah Henderson est la première à apporter publiquement son soutien à Jane Hume pour le poste de chef adjointe, soulignant leur longue collaboration économique. La sénatrice Henderson indique que Madame Hume exhorte désormais la sénatrice Hume à se joindre officiellement à la campagne afin de proposer une alternative crédible à la direction actuelle.
This is of course yet to be sorted through and there's only been various speculation, but I do hope Jane puts up her hand. I think they would be a very formidable combination. There's no ticket of course, but I do hope that Jane puts up her hand.
Les services de santé destinés aux populations autochtones vont être modernisés dans toute l'Australie. Anthony Albanese ayant promis que l'inaction face aux inégalités en matière de soins de santé n'est pas envisageable. Le Premier ministre devrait profiter de son discours annuel « Réduire les inégalités » pour annoncer un investissement de 144 millions de dollars dans la santé des populations autochtones et la modernisation de plus de 100 services dans les villes et les régions. Anthony Albanese devrait également annoncer un plan de réduction des prix des produits de première nécessité dans toutes les épiceries des communautés autochtones isolé. Le discours de Anthony Albanese révélera que 4 des objectifs du plan réduire les inégalités sont en voie d'être atteints et que 6 autres sont en progression. La ministre des Affaires autochtones, Malandiri McCarthy, affirme qu'il reste beaucoup de travail à accomplir.
We're certainly determined to close the gap. We've got 5 more years as part of the national agreement that was signed under Ken Wyatt. We know there's incredible challenges, especially in the justice space and also the out-of-home care with the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children. But we are determined to keep working with the states and territories to ensure we do close the gap, but also with Aboriginal and Torres Strait Islander communities.
L'opposition dans le Victoria exige que les allégations selon lesquelles un syndicat aurait servi de façade au crime organisé soient examinées par un organisme de lutte contre la corruption. Ces demandes font suite à un rapport accablant de l'avocat Jeffrey Watson SC sur la branche victorienne du CFMEU, présenté comme preuve devant la Commission royale du Queensland chargée d'enquêter sur le syndicat. Ce rapport recense plusieurs problèmes qui, selon Jeffrey Watson, ont, je cite, ruiné le CFMEU, notamment l'attrait des gains importants liés au programme Big Build de l'État, son mépris de la loi et l'incapacité du gouvernement à le contrôler. La chef de l'opposition dans le Victoria, Jess Wilson, a qualifié la première, Jacinta Allen, d'inactive après que le gouvernement de l'État a déclaré examiner le rapport de Jeffrey Watson. Interrogé par l'émission Today Show de Channel 9, le ministre de l'Environnement, Murray Watt, a affirmé que le gouvernement fédéral avait clairement exprimé sa position sur la corruption au sein des syndicats.
Since the administration took place, we have made very clear to state and territory governments who manage construction programs that we will not cop corruption, that we expect value for money, and we put in place a range of processes to make sure that that happens.
Au moins 30 personnes ont péri dans le cyclone Gezani à Madagascar qui lutte contre les conséquences dévastatrices de la tempête. Gezani a balayé la côte est avec des vents d'environ 185 km par heure et des rafales atteignant près de 270 km par heure, suffisamment puissants pour arracher les tôles des toits et déraciner de grands arbres. Avant l'arrivée du cyclone, les autorités ont fermé les écoles et se sont empressées de préparer des abris d'urgence. Les autorités avaient déjà alerté sur la montée des eaux, provoquant des inondations avant même que le cyclone ne frappe de plein fouet. Reportage Aurélie Koumar pour Radio France Internationale.
À Tamatave, le paysage n'est plus qu'un enchevêtrement de bois et de ferraille. Sous l'impact de rafales à 250 km/h, la ville portuaire a plié. Les images aériennes sont sans appel. Des quartiers entiers de toile en tôle ont été littéralement scalpés. Ici, la précarité de l'habitat ne pardonne pas. Avec plus de 70% de maisons construites en terre ou en écorce, le passage de Gezani a transformé la cité en piège. Le bilan est lourd, au moins 31 morts, mais les secouristes craignent de nouvelles découvertes macabres à mesure que l'eau se retire. Sur le terrain, le colonel Michael Randianirin tente d'occuper l'espace. Pataugeant dans les rues inondées, on a pu observer le nouvel homme fort de la refondation discuter avec les sinistrés et exprimer son soutien. 4 mois après sa prise de pouvoir, il fait face à sa première crise majeure. Devant l'ampleur du chaos, il a dû se résoudre à appeler à l'aide internationale. L'urgence est désormais sanitaire pour les 250 000 sinistrés, alors que le cyclone, après avoir traversé l'île, menace maintenant de regagner en puissance dans le canal du Mozambique.
À Tumbler Ridge, au Canada, la police a revu à la baisse le bilan initial de la fusillade survenue dans une ville minière isolée. 8 victimes et l'habitante soupçonnée des tirs de coups de feu s'est ensuite suicidée. Les drapeaux seront mis en berne dans tout le pays pendant 7 jours suite à cette tragédie, l'une des fusillades les plus meurtrières de l'histoire du Canada. Le premier ministre Mark Carney a déclaré que le pays était sous le choc et en deuil.
I want to express my profound gratitude to the first responders, the RCMP officers who entered immediately that school, not knowing what awaited them, to the paramedics and medical staff at the Tumbler Ridge Health Center, to the teachers and the school staff who acted with extraordinary courage to protect the children in their care.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine n'organiserait des élections qu'une fois les garanties de sécurité et un cessez-le-feu avec la Russie instaurées, en réponse aux informations selon lesquelles il envisagerait d'organiser un scrutin sous la pression des États-Unis. Volodymyr Zelensky a affirmé qu'une fois le cessez-le-feu établi, les élections auront lieu. Les élections en Ukraine sont suspendues depuis l'invasion russe de 2022. Volodymyr Zelensky a été élu en 2019 pour un mandat de 5 ans. Bien que la Russie ait tenté à plusieurs reprises de contester la légitimité de Volodymyr Zelensky depuis 2024, les sondages montrent que l'opinion publique ukrainienne est peu favorable à la tenue d'élections en pleine guerre. On passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 29 degrés. Adélaïde, 23. Melbourne, 18. Hobart, 18. Canberra, 29. Sydney, 28. Brisbane, 35. Darwin, 31. Et à Alice Springs, maximal de 30 degrés. Voilà la fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Vous écoutez le programme en français et on passe au journal des sports et vous êtes en compagnie de Bertrand Tungandamé.
Actualité sportive de ce jeudi, la phase des éliminatoires directes de la Ligue des champions féminines de l'UEFA a commencé ce matin. En match d'ouverture, le Real Madrid a battu le Paris FC 3-2 et défaite de l'OHC Leuven face à Arsenal 4-0. Ce vendredi, les Madrilènes de l'Atlético joueront contre les Anglaises de Man United. L'équipe allemande de Wolfsburg jouera contre la Juventus de Turin. Au total, ce sont 12 équipes qui participeront à la phase éliminatoire, 8 se qualifiant pour les séries éliminatoires et 4 pour les quarts de finale. Et le monde du football est en deuil ce jeudi, après le décès de l'attaquant tchadien Toko Nambantenge, figure du PSG des années 80 et premier buteur du club en Coupe d'Europe. Toko s'est atteint à l'âge de 73 ans. Portrait d'une figure emblématique du PSG avec Victor Missistrano.
À jamais le premier, Nambatinge Toko est celui par qui la grande histoire européenne du PSG a débuté. Le 28 septembre 1982, au Parc des Princes, l'attaquant tchadien ouvre le score contre le Lokomotiv Sofia, le premier but de l'histoire du club sur la scène continentale. Né à N'Djamena en 1952, il arrive en France à 21 ans et débute à Albi. Après des passages à Nice, Bordeaux ou Strasbourg, c'est dans la capitale que celui qu'on surnomme l'indomptable écrit les plus belles pages de sa carrière. 43 buts en 171 matchs en rouge et bleu pour l'attaquant longiligne qui marque lors des finales de Coupe de France remportées en 1982 et 83, les deux premières de l'histoire du Paris Saint-Germain. À la fin de sa carrière, Nambatinge Toko intégrera l'encadrement du club pour 10 ans. ancien président du PSG, Michel Denisot salue aujourd'hui un grand joueur, puis précieux membre du staff, toujours de bonne humeur et attentionné. L'ex-international du Tchad souffrait d'un cancer depuis 2017. La famille du Paris Saint-Germain est en deuil, écrit le club dans un communiqué, pour rendre hommage à l'un de ses pionniers.
Alain Giresse, l'ancien international de tricolore, revient lui aussi sur les qualités sportives de Toko Nambantengue.
C'était la puissance devant un attaquant qui allait très vite. Pour un meneur de jeu que j'étais, c'était très agréable parce qu'évidemment, des solutions, des appels, eh bien, il proposait ces solutions là, de jouer dans ces espaces. Il n'y en a pas beaucoup qui pouvaient le rattraper avec sa vitesse et sa puissance était difficilement arrêtable. Il faisait partie effectivement des premiers Africains qui ont fait parler d'eux dans le championnat français. Après, c'était un type très jovial. Il aimait la vie. C'était pas un garçon qui était très taciturne comme ça. Non. Toujours le sourire, toujours agréable. C'était toujours plaisant avec lui, voilà, d'avoir des échanges.
Et coup de tonnerre à Marseille, l'OM et son entraîneur Roberto De Zerbi se sont séparés. La gifle reçue à Paris le week-end dernier, 5-0, a précipité le départ de l'entraîneur italien de Marseille. Bien que les parties annoncent une séparation de commun accord, la décision serait due à une pression insoutenable des supporters. Victor Messistrano.
Les supporters réclamaient son départ. Après cette énième rechute des Marseillais dimanche, l'entraîneur italien de 46 ans s'était montré impuissant, presque accablé. « Je n'ai pas d'explication, c'est le plus grand problème en ce moment », avait-il déclaré à propos de l'irrégularité de son équipe. Un OM aux deux visages, capable de chahuter ce même Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions un mois plus tôt, ou de signer des victoires enthousiasmantes en championnat contre Lens ou Rennes. Mais un OM parfois inoffensif, éliminé de la Ligue des Champions fin janvier. Un fiasco de défaites successives 3-0 lors des deux derniers matchs contre Liverpool et Bruges pour sa première saison. Roberto De Zerbi, arrivé de Brighton en Angleterre, avait qualifié Marseille pour cette Coupe d'Europe grâce à une belle deuxième place de Ligue 1. C'est donc sans lui que les Olympiens, actuellement quatrième du championnat, tenteront de retourner en C1, objectif principal du club. Et ça commence par une réaction attendue dès samedi pour Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers contre Strasbourg au Vélodrome.
L'entraîneur de Tottenham Hotspur, lui aussi, a été limogé par le club suite aussi à une défaite 2-1 cette fois-ci. À domicile contre Newcastle. Cette décision est intervenue 8 mois à peine après la prise de fonction du technicien de 52 ans qui avait succédé à l'Australien Ange Postecoglou. Ce limogeage était prévisible. Tottenham Hotspur traîne à la 16e place de Premier League et a été éliminé de la FA Cup et de la Carabao Cup. Tottenham Hotspur n'est qu'à 5 points près de la relégation après une série de résultats catastrophiques. Et au JO d'hiver, 2 jours après l'or en relais mixte, Éric Perrault a remporté mardi soir une médaille d'argent, biathlon sur individuel 20 km. L'athlète français se voulait satisfait de sa 2e place de l'individuel homme, estimant avoir été battu par plus fort que lui. On l'écoute.
Il y a toujours un mix des deux. Je mets tellement d'énergie parce que j'ai tellement envie de gagner ces courses que quand on franchit la ligne et qu'on voit qu'on va finir 2e, il y a cette petite frustration de compétiteur. Mais je pense que c'est important de prendre un peu de recul et de se rendre compte que c'est une très belle performance aujourd'hui. Il y avait tout simplement meilleur que moi. Johan Oulav a réussi à sortir une course pleine avec le 20 sur 20 au tir, ce qui m'a manqué. Donc beaucoup de satisfaction et voilà, faut savoir dire bravo à Johan Oulav qui a été meilleur aujourd'hui.
Et après la médaille de Perrault, mardi, hier les Français ont continué à engranger des bons résultats avec 3 médailles sur la journée. Thomas Dessin-Léger.
Le bronze pour Perrine Laffont en ski de bosse, 8 ans après son titre à Pyeongchang. L'argent au coup de Lou Jean Monod sur le 15 km individuel du biathlon. Et l'or pour Julia Simon dans la même épreuve. Les deux femmes avaient d'ailleurs déjà participé au titre du relais mixte dimanche. Julia Simon, sacrée dans des vents contraires, on peut le dire. Elle avait manqué le début de saison, suspendue sportivement et condamnée judiciairement dans une affaire de fraude à la carte bancaire au préjudice notamment de sa coéquipière Justine Brezaz-Boucher, d'où son émotion spéciale à l'arrivée.
C'est incroyable, j'ai forcément une pensée pour ma famille qui n'a pas pu venir aujourd'hui mais qui est derrière la télé. Je leur ai envoyé un message direct, c'est incroyable, ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours été là. Mes parents, mes sœurs, mes potes, j'ai mes potes sur le bord de la piste, c'est incroyable, c'est dingue. Il y a le doublé, c'est, enfin, en fait on s'est habitué à ça aussi en Coupe du Monde. Et c'est vrai que le faire aux Jeux Olympiques, c'est juste c'est dingue, c'est incroyable. Et je pense que c'est un staff qui bosse tellement dur pour nous qu'aujourd'hui, pouvoir les remercier comme ça, c'est génial.
Au total, à la fin de la journée hier, c'était donc 6 médailles engrangées par les athlètes français. Une 7e est tombée un peu plus tôt ce matin, une médaille d'or cette fois-ci. Reportage, Christophe Diramzian, RFI.
Julia Simon peine à retenir ses larmes sur la Marseillaise. Une joie mêlée d'un soulagement, celui du poids d'une saison compliquée en dehors de la piste. La Savoyarde de 29 ans décroche son tout premier titre olympique dans une épreuve qui n'est pas vraiment la sienne, une médaille d'or chèrement gagnée.
Elle représente des années de travail, de doutes, comme tout sportif de haut niveau, des hauts, des bas, des moments un petit peu plus difficiles. Et puis juste en fait des personnes qui m'ont jamais lâché, ma famille, mes amis, mes coachs qui ont toujours cru en moi aussi. Beaucoup de satisfaction et puis la validation. J'ai fait le tour en fait, aujourd'hui j'ai tout gagné. Ça vient valider une belle carrière.
Et faire oublier aussi de gros soucis extrasportifs. Une condamnation judiciaire fin octobre, puis une suspension d'un mois pour une fraude à la carte bancaire, au préjudice notamment de sa coéquipière Justine Brezaz-Bouchet. Affaire classée pour le patron du groupe féminin, Cyril Burdet.
J'ai même pas envie d'en parler, ça fait partie de l'aventure. Après, Julia, on la connaît, c'est une énorme championne, elle a fait ce qu'elle sait faire aujourd'hui, et quand elle est dans un état d'esprit comme elle est aujourd'hui, elle est difficile à battre. La porte n'était pas grande ouverte, il fallait vraiment être très très fort.
Une dernière mise au point agacée sur ses ennuis de l'automne au micro de la chaîne Eurosport, et Julia Simon est partie savourer sa victoire au fort goût de rédemption.
Et toujours aux Jeux Olympiques d'hiver, les Australiens Scotty James et Valentino Guselli se sont tous deux qualifiés pour la finale masculine de Halfpipe des Snowboard aux Jeux de Milan-Cortina. Meilleur qualifié pour la finale, James a obtenu 94 points lors de son premier passage dans le halfpipe, réalisant un switch backside double coke 1440, une figure qu'il avait exécutée pour la première fois en compétition en Suisse le mois dernier. Le snowboarder de 31 ans a déclaré à Channel 9 avoir atteint son objectif.
Felt amazing. Hi everyone, good morning back in Oz. Miss you all. It was a good day. I was really happy. It was the plan to come out and put my best foot forward to try and stand at the top at the end of quali. It's not done yet. Don't want to speak too soon, but it was really great and I had a good night and looking forward to Friday.
Son compatriote australien, Valentino Guselli, a également décroché sa place en finale, réalisant deux courses solides et régulières, un 86,75 suivi d'un 86,25 pour se qualifier confortablement à la 6e place. Toujours dans le monde du ski, la skieuse alpine américaine Lindsey Vonn a subi avec succès sa 3e opération à la jambe fracturée après sa chute lors de la descente des JO d'hiver de Milan-Cortina. On rappelle que Vonn a chuté 13 secondes à peine après le départ de sa descente dimanche lors de l'épreuve Rennes. La sportive de 41 ans a publié une mise à jour sur Instagram, accompagnée de photos la montrant en faisant un signe du pouce levé depuis son lit d'hôpital. Une attelle métallique immobilisant sa jambe. La directrice générale du comité olympique américain, Sarah Hisland, a salué le courage de Vonn. On l'écoute.
You know, I'll refer to Lindsay's most recent Instagram post, and if you've not seen it, look it up. The picture is extraordinary, and her comments are reflective of what only Lindsey Vonn can do. She's an extraordinary human being. We are incredibly lucky and incredibly grateful to call her a teammate.
C'est sur cette note positive que nous clôturons l'actualité sportive de ce jeudi, suite du programme dans un instant.
Radio SBS en français.
Ce jeudi 12 février, la fusée Ariane 64, équipée de 4 lanceurs, doit décoller de la station spatiale de Kourou en Guyane pour son vol inaugural. Cette version puissante de la fusée Ariane 6 emportera 32 satellites du réseau de satellites à haut débit Amazon Leo. Alors où les États-Unis sont perçus comme un partenaire potentiellement peu fiable, il s'agit d'une étape cruciale dans les efforts de l'Europe d'obtenir une indépendance dans l'aérospatiale. Dans un hangar de fabrication ultra sécurisé à l'ouest de Paris, des techniciens apportent les dernières touches à un énorme moteur argenté. Cette semaine, une machine similaire contribuera à propulser la version la plus puissante jamais conçue de la fusée Ariane 64 qui volera pour la première fois avec 4 propulseurs d'appoint. La fusée Ariane 64, ainsi nommée en raison de ses 4 propulseurs d'appoint, doit effectuer son vol inaugural depuis le centre spatial de Kourou avec pour objectif le déploiement de 32 satellites pour la flotte de satellites pour le service Internet haut débit Amazon Leo. À l'usine du groupe Ariane à Vernon, les ingénieurs conçoivent, intègrent et testent le moteur du lanceur lourd européen. Sur un autre site à l'ouest de Paris, au Mureau, les composants de l'étage principal de la fusée ont été soigneusement construits et assemblés. Emmanuel Vialon, responsable du site de Vernon, explique que le projet a été conçu pour réduire de moitié le coût d'un lancement.
So the main stake for Ariane 6 was to divide the cost by a factor of a little bit less by two. This was not done only at engine level, but at the low, all launcher level, but each of the components was supposed to bring significant value on that aspect.
Pour les employés travaillant sur le programme Ariane, le compte à rebours sera à la fois partagé et personnel lorsqu'Ariane 64 s'élancera vers le ciel pour la première fois. Le lanceur, ses moteurs et son avionique sont construits dans 13 pays européens participant au programme Ariane. Avant le lancement de ce jeudi, tous les composants ont traversé l'Atlantique pour rejoindre la Guyane française en vue de l'assemblage final. La fusée mesure environ 62 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Emmanuel Vallion explique qu'au cœur de cette fusée se trouve un bloc moteur principal haut de 3 mètres.
Le moteur Vulcan 2.1 qui est derrière moi est le premier.
The Vulcan 2.1 engine is the first to ignite when the rocket is launched. For a few seconds, we verify that it is operating properly. Once we are fully confident that it will perform as expected during the 8 minutes that follow, the solid rocket boosters are ignited and the rocket lifts off. Its burn time is about 8 minutes, during which it delivers roughly 140 metric tons of thrust.
Et il va délivrer de l'ordre de 140 tonnes de poussée pendant ces 8 minutes.
Une fois lancé, la mission durera environ 1 heure et 50 minutes, presque une orbite complète autour de la Terre, avant le déploiement des satellites par paire depuis le sommet de la fusée. Le réseau de satellites du service Internet Leo d'Amazon vise à concurrencer le service Starlink de SpaceX, actuellement leader du secteur. Les moteurs produits à Vernon sont testés sur place dans des conditions proches des conditions réelles de lancement, à proximité du site de lancement. Au cœur de la forêt environnante, des structures renforcées maintiennent les moteurs en place pendant leur fonctionnement à pleine puissance, tandis que des équipes d'essai opèrent depuis des salles de contrôle souterraines. Laurence, dont le nom complet est tenu secret pour des raisons de sécurité, indique qu'une importante équipe participe à l'opération.
Tout le processus entre le moment où le moteur arrive et le moteur repart avec
the entire process from the moment the engine arrives to when it departs, including the entire intermediate testing phase, ambient tests, cryogenic tests and real firing tests, takes about 10 days to 3 weeks of activity. Consequently, we have a whole team with specialists, including measurement specialists, IT specialists, fluid mechanics specialists. The team consists of approximately 20 people who will handle this engine during these 2 to 3 weeks to ensure it is calibrated and ready to be sent to the assembly hall.
En fait, envoyé au hall de montage, vous avez peut-être vu après pour qu'il soit reconfiguré pour le vol.
De retour en France, sur le site des Mureaux, les ingénieurs ont commencé à préparer les composants des fusées pour les missions à venir. L'accès indépendant à l'espace demeure l'objectif principal du programme Ariane, selon Arnaud Démé, chef de projet Ariane 6. Il s'agit d'un secteur très concurrentiel dominé par SpaceX, la société d'Elon Musk et son modèle des fusées réutilisables.
Ariane Group est en train de travailler sur des briques de technologie.
Ariane Group is currently working on key technology bricks, whether for engines or for a complete rocket.
to enable the reuse of certain launcher components. Ideally, we would like to be able to reuse an entire stage, including the engines that powered its liftoff. To achieve this, we need engines that can be reignited. We already know how to reignite an engine in space, but we also need thrust that is throttleable and adjustable, allowing us to perform a controlled landing. This is something we are actively developing and working on across our Ariane Group sites throughout Europe.
Sur nos différents sites Ariane Group dans toute l'Europe.
La concurrence avec SpaceX est un défi de taille qui offre une capacité de lancement lourd comparable. Ce reportage a été produit en anglais par Alan Lee de la salle de rédaction de SBS et traduit en français par Bertrand Tunganame pour SBS French.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
13h et bientôt 32 minutes sur les ondes de radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Je repasse l'antenne à notre collègue Bertrand Tunganame qui a comme invité Stani Goma qui vont nous parler de la tournée australienne de Somi. C'est une artiste qui fusionne le folk africain et l'improvisation du jazz new-yorkais. Somi sera au Perth Festival ce week-end et ensuite elle sera à Melbourne la semaine prochaine.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
J'ai le plaisir de recevoir Stani Goma, présentateur, animateur et même fondateur de l'émission Flight 1067 to Africa. Stani, qui est un régulier de SBS French, nous rejoint aujourd'hui en marge d'une tournée australienne, d'une sensation de la musique new-yorkaise, africaine, je dirais même mondiale, Somi, première africaine nominée aux Grammy Awards et est en tournée ce mois de février en Australie. Eh bien, Stani, tout d'abord, bonjour et bienvenue et parlez-nous de cette tournée exceptionnelle.
Merci, merci, merci à vous, Bertrand. Effectivement, Somi, comme vous l'avez dit, première africaine à recevoir une nomination Grammy pour le jazz, hein, pour le jazz. Il faut le préciser. Effectivement, c'est pas donné, quoi. C'est pas donné aux artistes africains pour se retrouver dans cette situation-là. Elle est née aux États-Unis de parents rwandais et ougandais. Donc, elle a grandi dans un milieu africain. À un âge assez jeune, elle est partie au Nigeria, dans ce qu'elle appelle Creative Sabbatical. Donc, elle a passé 18 mois à Lagos. Et comme vous pouvez l'imaginer, une Africaine de la diaspora se retrouver à Lagos pour une durée de 18 mois, ça a nécessairement influencé son goût sur le plan musical. Donc, elle a sorti un album inspiré par ça et après, elle a sorti un album aussi qui s'appelle Petite Afrique parce que à New York, et j'étais moi-même cap d'ailleurs, j'ai remarqué, il y a un quartier, il y a des petits quartiers comme ça africains à New York et, mais son plus récent projet, c'est un hommage à Miriam Makeba. Elle a fait tout un album et aussi une pièce de théâtre qui va avec, cet album-là, dédié à la mémoire de Miriam. Donc, elle a repris les chansons, certaines chansons de Miriam Makeba, à sa façon à elle, effectivement. Apparemment, elle a été aussi guidée par Yuma Sekela, qui n'est plus avec nous, malheureusement, qui était un artiste sud-africain très bien connu, qui a été son mentor, en quelque sorte. Et donc, du coup, ce qu'on va avoir, c'est un artiste accompli, assez bien connu, en Afrique en ce moment, au Rwanda, apparemment, elle passe beaucoup de temps en Afrique de l'Est, mais ce sera sa première tournée en Australie, effectivement.
Une tournée en Australie, une artiste au parcours plutôt inédit, parce que souvent les artistes qui sont en France, aux États-Unis, en Occident, ils restent là.
Et elle, elle a fait l'inverse, elle est repartie se ressourcer en Afrique, dans une partie de l'Afrique tout à fait opposée à sa région d'origine, donc de parents ougandais et rwandais, en Afrique centrale, Afrique de l'Est. Mais elle a plutôt été de l'autre côté, complètement à l'opposé, donc en Afrique de l'Ouest, au Nigeria. Un parcours exceptionnel quand même pour une artiste qui vous laisse ressourcer. Et vous avez parlé de Myriam Makeba, Mama Africa, Yuma Sekela, parce que ça aussi c'est une artiste que peut-être certains de nos auditeurs francophones ne connaissent pas bien, mais c'est une artiste qui a quand même des liens avec l'Afrique francophone, le monde entier. Et même si elle nous a quittés, c'était une artiste engagée, et une artiste qui a fait vibrer des générations d'Africains. Et son répertoire continue d'animer bon nombre de soirées, de conversations d'ailleurs.
En effet, elle est de, donc je parle de Myriam Makeba en ce moment, d'origine sud-africaine, qui malheureusement dans les années 60, au temps de l'apartheid, a dû quitter l'Afrique du Sud. À un moment donné, son passeport, sa nationalité était révoquée. Donc elle n'avait pas le droit de retour en Afrique du Sud. Elle a aussi fait un discours qui est très fameux, qui est même en ligne aux Nations Unies pour expliquer la situation qui se passe en Afrique du Sud. Donc, du coup, elle a passé 30 ans en exil avant de finalement repartir après le changement en Afrique du Sud. Et pendant tout le temps qu'elle était en exil, au départ, elle a passé du temps aux États-Unis et elle était très proche du milieu des Black Panthers. Et du coup, en ce moment-là, les milieux conservateurs aux États-Unis n'ont pas voulu d'elle, en fait. Donc, elle était en quelque sorte pas officiellement expulsée, mais vraiment pas bienvenue aux États-Unis après qu'elle se soit marié à un des Black Panthers qui s'appelait Stokely Carmichael. Et à l'époque, c'est Couturé de la Guinée lui a offert un asile, qu'il a offert un passeport et une maison en Guinée-Conakry.
Oui.
Et donc pendant un bout de temps, elle a vécu en Guinée. Et après, effectivement, il y a eu le changement en Guinée, et sans moi qu'elle s'est retrouvée en Europe à un moment donné. Et donc, il est vrai que étant originaire de l'Afrique anglophone, pas trop connue, mais quand même assez connue dans beaucoup de pays parce qu'elle était dans
son combat africaniste, indépendantiste.
Tout à fait. Et je crois qu'en 1974, ce fameux concert à Kinshasa, cette boxe, cette compétition entre Mohamed Ali et George Foreman, elle a joué durant cette période-là, ce match est très bien connu.
Oui, le match avec Mohamed Ali, le repas d'or, Mohamed Ali qui a humilié
Foreman. Ali Boumaye, ils appellent ça Rumble the Jungle. Il y a tout un film très, très connu qui est. Donc, elle a joué, elle a fait le tour de l'Afrique pendant. Et pendant longtemps, elle a fait une version d'une chanson très connue qui s'appelle Malaika, qui est l'une des chansons africaines les plus connues. Et donc, du coup, Myriam Makeba est resté un nom iconique et très apprécié à travers le continent. Et il est clair qu'elle a beaucoup influencé, surtout les jeunes femmes, les jeunes chanteuses, les gens comme Angélique Kidjo disent qu'ils sont énormément influencés par les gens comme par Myriam Makeba. Donc, apparemment, Somi, en grandissant, étant issu des parents de l'Afrique de l'Est, Afrique centrale, effectivement, dans le Rwanda, elle a connu la musique de Myriam Makeba. Et en grandissant, elle est partie à un musée où il y avait une exposition sur la culture africaine. C'était un musée beaucoup plus sur l'Afrique du Sud. Et elle était surprise et choquée d'apprendre qu'il n'y avait pas grand-chose sur Myriam Makeba, qui, à son avis, était une personne très importante dans la culture sud-africaine. Donc, elle a décidé de faire un projet pour lui rendre hommage avec un album dédié à elle, avec ses chansons, mais aussi une pièce de théâtre qu'elle joue. Elle commence à tourner à Perth. Donc, elle va jouer pour Perth Festival, le 13, 14, 15. Et puis le 16, elle revient sur Melbourne. Et à Melbourne, elle va jouer quatre concerts au total, deux concerts par jour. C'est le mardi 17 et le mercredi 18 février. Deux concerts au Jazz là, à Brunswick, pour ceux qui sont à Melbourne. Et pour ceux qui sont à Perth, effectivement, ils peuvent l'avoir au Perth Festival. Elle va jouer à un endroit qui s'appelle The Embassy à Perth, dans la ville de Perth. Et puis aussi à Melbourne, ça va être le Jazz Lab qui se trouve à Brunswick.
Oui, c'est une des grandes figures du Festival de Perth, édition 2026. Et elle profite de l'occasion pour venir à Melbourne. Une tournée quand même chargée.
C'est un programme assez serré. En plus, elle vient de... Là, elle est en ce moment, elle est en Afrique, en fait. Elle vient de faire une petite tournée en Afrique. Donc, elle va venir du Kenya à travers l'Afrique du Sud et arriver à Perth, de là.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Donc, elle se produit à Perth à l'occasion du Perth Festival. À Melbourne, il y a aussi un festival international du jazz, en fait, dans le cadre du festival du jazz à Melbourne.
En fait, le festival international du jazz de Melbourne, qui a normalement lieu au mois d'octobre.
Oui.
Et donc, ils ont décidé, à partir de 2026, de faire des shows ou des concerts en amont. Donc, au lieu d'attendre de le faire une fois par an, s'il y a un artiste jazz qui les intéresse, ils sont intéressés à voir s'ils peuvent programmer des concerts comme ça tout le long de l'année, quoi, avant la semaine du mois d'octobre où ils sont contents. Donc, en fait, c'est le Melbourne International Jazz Festival qui est responsable de ça, qui l'a invité ici à Melbourne. Et au niveau de Perth, c'est le Perth Festival. Comme elle est dans le jazz et comme elle est en Australie, effectivement, pour Melbourne International Jazz Festival, c'est une occasion de travailler avec un artiste qui est dans leur milieu, si vous voulez, comme elle le fait tellement bien, ça, ils ont trouvé que ça serait une bonne chose pour qu'ils s'impliquent et puissent l'amener à Melbourne. Et comme ils ont, comment dire, un circuit jazz bien établi, ça veut dire que les gens qui apprécient le jazz seront au courant tout de suite. Et j'espère que ça va bien se passer pour elle.
Et vous qui connaissez bien le milieu artistique africain et le milieu culturel de Melbourne, quelle est l'anticipation? Pas seulement à Melbourne, mais aussi en Australie, à Perth. Quelle est l'anticipation de recevoir une artiste de si grande renommée?
Comme vous le savez, on n'a pas vraiment la chance d'avoir beaucoup des artistes à ce niveau quand même, hein, par rapport pour le continent calibre, africain. Gros calibre, tout à fait. Et donc, du coup, non, ça a créé beaucoup d'intérêt. Il y a pas mal de personnes qui ont voulu l'interviewer, beaucoup de gens. Et c'est pour ça que le Melbourne International Jazz a programmé quatre concerts sur 2 jours. C'est pour dire un peu l'intérêt qu'elle a suscité. Donc, du coup, ça permet aux gens de la voir. C'est vrai que c'est un peu compliqué pendant la semaine, au milieu de la semaine, mardi et mercredi. 2 concerts par jour, le mardi et 2 le mercredi. Ça va donner beaucoup plus de chance aux gens de trouver le moment qu'il faut pour aller la voir. Et non, du coup, le niveau d'intérêt est assez, assez grand parce que il y a le côté jazz qui est effectivement un intérêt, surtout à Melbourne, hein. Il y a vraiment un public jazz bien, bien établi, bien connu. Et il y a aussi le côté africain qu'elle fusionne avec son jazz. En même temps, elle a joué avec des grosses pointures, hein, comme Gregory Porter, qui est un bien connu dans le milieu jazz, qui a été l'un des artistes favoris l'année passée au Melbourne International Jazz. Donc, elle est très connue, dans le milieu jazz parce que, à cause du travail qu'elle accomplit. Sur le plan jazz, je suis sûr que ça va bien se passer dans la communauté rwandaise comme dans la communauté ougandaise, en Afrique de l'Est.
Elle
en
est bien
général,
connue.
Ils sont courants, elle est bien connue. Et donc, du coup, on va avoir un public assez mix dans ce concert.
Un public multiculturel, sa connexion avec le Nigeria, son répertoire sud-africain, surtout si elle a travaillé sur des musiques si elle a remixé des morceaux de Yuma Sekela et puis sa rétrospective à Myriam Makeba, parce que Myriam Makeba, c'est une très, 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 très grosse pointure. Moi, je me souviens, en grandissant, c'était ses disques, les morceaux comme Pata Pata, Malaï, et tout ça, bon, tout le monde avait, c'était l'un des tout premiers disques que tout mélomane devait posséder dans sa collection et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, quand on va dans les événements africains, surtout de notre génération, les gens jouent ces morceaux, les jeunes les reprennent, les remixent, parce que c'est des evergreens. Et ce sera vraiment fantastique de voir une artiste qui célèbre ces très, très grosses pointures de la musique africaine, Yuma Sekela et Myriam Makeba, et une jeune montante, étoile montante, qu'on va découvrir à Melbourne.
Et tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Et on a la chance, hein, parce que c'est pas donné une jeune femme qui est née loin de l'Afrique, mais qui, à un moment donné, a connecté avec le continent, a s'est ressourcée, a trouvé et a décidé de rendre hommage à l'une des grosses peintures de la musique africaine. C'est une belle histoire, quoi, en fait, en quelque sorte. Mmh. Effectivement, il y a son talent à elle, qui est indéniable. Mmh. Il y a aussi le fait qu'elle a utilisé ce talent. Voilà.
Au grand sœur, Myriam Makeba, c'est Mama Africa aussi. Ça, c'est le nom affectif. Tout le monde la connaît sous le nom de Mama Africa, d'ailleurs.
Effectivement. Et comme vous le savez, on vient de faire un concert, nous, ici à Melbourne, pour rendre hommage, effectivement, à Mama Africa. C'était le samedi, au Melbourne Recital Center. Il y a eu deux concerts à guichet fermé, effectivement, qui étaient une très belle chose. Les gens sont venus nombreux. Effectivement, à cause de Myriam Makeba. Parce que quand on dit Myriam Makeba, il y a ce respect. Il y a aussi cette nostalgie, cette dame qui nous a bercé. On était tout jeunes et qu'on a écouté la radio en Afrique. Je me rappelle quand elle passait à la radio, tout le monde disait, ça c'est Myriam Makeba, libératrice de la chanson africaine. Donc, c'est vraiment une célébration d'une Afrique du passé, mais aussi du futur.
C'est la Renaissance africaine, disons. C'est la Renaissance africaine.
C'est la règle de l'espoir et de la Renaissance.
C'est la Renaissance africaine.
La Renaissance. Donc, il y a un peu ce côté-là. La Renaissance africaine, c'est vraiment
le
futur. C'est le mot qui convient. C'est intéressant parce que j'ai écrit un petit peu un poème, en fait. Un poème pour Myriam Makeba, pour l'occasion du concert, parce que il y a un petit fichier pour le concert. Oui. Je me suis dit, autant mieux mettre un petit poème. Et c'était inspiré par l'idée que, à mon avis, à mon humble avis, si l'Afrique était une personne, elle ressemblerait à Myriam Makeba. Elle serait vraiment, elle parlerait comme Myriam Makeba, elle marcherait comme Myriam Makeba et elle chanterait comme Myriam Makeba. Voilà. Mm-hmm. Et donc, c'est un peu le sens de ça. Et c'est pour ça que le mot « Renaissance » vraiment, c'est le mot qu'il faut, quoi. C'est le mot qui convient pour décrire ça.
Et le poème est en français parce qu'il faut nous le partager.
Mais je vais faire en anglais, effectivement, parce que c'est pour un public anglophone, anglo-saxon. Mais effectivement, parce que si je l'ai fait en français, ce serait très compliqué pour
très exclusif.
Pour les gens de Melbourne.
Ce serait exclusif.
Effectivement.
Oui, d'accord. Et voilà. Stanley, en tout cas, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler de la tournée de Somi, une grande sensation du jazz, je dirais afro-américain, je dirais pas américain, afro-américain, première africaine nominée aux Grammy Awards et qui est en tournée en Australie. Stanley Goma, merci infiniment et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Malice.
Voilà, c'était Somi, donc la première femme africaine nommée aux Grammys dans la catégorie jazz, et elle sera au Puff Festival ce week-end, et ensuite vous pourrez la voir ici à Melbourne au Jazz Lab la semaine prochaine. Un rappel des titres du journal de ce jeudi 12 février. En Australie, le député libéral Angus Taylor a officiellement lancé sa candidature à la direction du Parti libéral, mettant fin à des mois de spéculation concernant le poste de Susan Lee. Au moins 30 personnes ont péri dans le cyclone Gezani à Madagascar, qui lutte contre les conséquences dévastatrices de la tempête. Gezani a balayé la côte est avec des vents d'environ 185 km par heure et des rafales atteignant près de 270 km par heure. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine n'organiserait des élections qu'une fois les garanties de sécurité et un cessez-le-feu avec la Russie instaurées. Et voilà pour l'émission de ce jeudi. Merci d'avoir été avec nous. Belle fin d'après-midi. À bientôt. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.